suis totalement en retard, 8h31, le journal, Nathan.
Kendest repousse son entrée en bourse. Le groupe franco-allemand au cœur du projet de Char du Futur préfère attendre le retour de conditions de marché plus favorables. Dans un communiqué publié hier soir, le groupe d'armement justifie sa décision par une volatilité trop forte du secteur européen de la défense. Cette opération, lancée le 24 juin, qui devait avoir lieu dans les bourses de Paris et de Francfort, devait être l'une des plus importantes introductions en bourse récentes dans la défense européenne, avec une valorisation qui pouvait dépasser les 12 milliards d'euros. En France, pour faire des économies, le gouvernement a décidé cette semaine un nouveau recentrage du dispositif MaPrimeRénov. 6 catégories de monogestes dont les fenêtres ne seront pas plus subventionnées. En pleine canicule, l'annonce est très mal passée. Ce matin, sur BFM Business, le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, a défendu cette décision.
Quand on refait tout d'un coup, au fond, d'abord les travaux coûtent moins cher, vous mettez tout en chantier d'un coup, au global. Et deuxièmement, vous avez un résultat qui fait que pendant 30 ans, 40 ans, vous n'y revenez plus. Là où le monogeste, c'est plus compliqué. Et surtout, vous cassez une première fois, vous refaites les peintures, puis il faudra revenir casser une deuxième fois, vous refaites les peintures. Et surtout, le risque, et on l'a vu, c'est qu'on ne fasse pas les travaux dans le bon ordre. Il y a une espèce d'escroquerie à dire, on va vous aider à changer votre système de chauffage. Ah, je vais faire des économies. Ah, non, parce que vous n'avez pas isolé les murs. Donc, il vaut mieux être complet. Et c'est ça qu'on fait avec MaPrimeRénov, de la rénovation globale.
Marie-Lise Léon tape du poing sur la table concernant la gestion du réchauffement climatique. Dans un entretien au Monde, la secrétaire générale de la CFDT appelle le gouvernement à se montrer beaucoup plus volontariste. Elle juge aussi que les entreprises sont insuffisamment mobilisées sur cette question. Elle souhaite mettre en place un bouclier social climatique. Elle met en avant l'exemple espagnol. Le gouvernement a notamment instauré des sanctions pouvant aller jusqu'à 30 000 euros quand les salariés sont exposés à des risques. Dans l'actualité des entreprises, Canal+ cesse de diffuser plusieurs chaînes du groupe TF1 en France, en Suisse et en Afrique. Le groupe de Vincent Bolloré dit regretter cette décision, mais la justifie par l'échec des discussions engagées avec le groupe TF1 après plusieurs mois de négociations. Du côté de la filiale de Bouygues, on dit aussi regretter ce choix qui fragilise le secteur du documentaire dans son ensemble. Un épisode qui rappelle le conflit qui avait opposé les deux chaînes en 2022. Et puis un troisième trimestre au-dessus des attentes pour Sodexo. Le groupe de restauration collective a réalisé plus de 6 milliards d'euros de ventes, plus 0,9% par rapport à l'exercice précédent. Sodexo relève son objectif de croissance pour l'exercice en cours, désormais attendu entre 1,2 et 1,5%. Contre 0,5 et 1% précédemment.
Merci Nathan Cocampo. La presse internationale revient sur la situation au Moyen-Orient. Annalisa Capellini.
Oui, la situation en particulier dans le détroit d'Ormuz. C'est une information dévoilée par Bloomberg qui nous raconte que les États-Unis estiment que désormais il y a 10 millions de barils de pétrole par jour qui transitent par le détroit d'Ormuz. Donc ça réduit l'influence de l'Iran sur le marché pétrolier. Et cette situation aurait pris Téhéran au dépourvu, donc selon les informations citées par Bloomberg, c'est ça finalement qui a déclenché les attaques récentes dans le détroit d'Ormuz. Donc vous voyez, il y a un retour à la normale qui s'amorce dans le détroit d'Ormuz et au Moyen-Orient plus en général, mais qui sera lent. C'est un peu la même chose pour les pays du Golfe et c'est le cas par exemple de Dubaï. Dubaï qui essaye de préparer un retour en force après la guerre pour redorer une image qui a été très ternie par la guerre. C'est un long format en une du Wall Street Journal aujourd'hui, qui raconte comment effectivement Dubaï essaye de travailler pour préparer l'après-conflit et qui raconte que avant la guerre en Iran, il y avait 40 000 conteneurs maritimes qui transitaient chaque jour par le port de Jebel Ali. C'est le port qui a permis à Dubaï de devenir une grande puissance internationale. Et aujourd'hui, on est passé de 40 000 conteneurs par jour à 1 000 seulement par jour. Les quais sont quasiment déserts. Donc voilà, ce reportage du Wall Street Journal qui raconte toute la difficulté des pays du Golfe pour retrouver une normalité.
Dans la revue de presse internationale, il y a aussi le Financial Times qui dévoile qu'OpenAI propose de céder 5% de ses parts à l'administration Trump.
Oui, alors l'idée bien sûr, c'est de lever les obstacles politiques en obtenant le soutien financier de l'administration Trump, qui met un peu les bâtons dans les roues dernièrement aux entreprises dans les domaines de l'IA. Et donc selon les sources citées par le Financial Times ce matin, Sam Altman dit aussi que donner au public une participation financière dans l'entreprise, finalement, c'est le meilleur moyen de partager les avantages de l'IA. Voilà, on verra si c'est plutôt la raison financière ou l'intérêt du public dans l'IA qui a décidé ce choix de Sam Altman.
Ça a fait sourire Étienne Braque, cette nouvelle.
C'est du donnant-donnant. Ouais. Hein. Il faut essayer de convaincre l'administration Trump.
C'est du calcul. Les marchés, on en profite. À 25 minutes de l'ouverture, est-ce que ça s'est décidé, la tendance, Étienne?
Non, ça se décide pas. Il y a de fortes chances que ça ne se décide pas avant 14h30 et l'emploi américain aux États-Unis, hein, puisque demain, il n'y aura pas de séance à Wall Street. Demain, 3 juillet, ça sera les 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Et puis samedi, ça sera surtout la fête nationale, hein, qui est bien sûr très attendue et qui est préparée depuis des semaines maintenant à Washington. Les valeurs à suivre, Sodexo, hein, qui revoit donc à la hausse ses prévisions pour cette année, titre qui a largement déçu les marchés après de nombreux profit warnings ces derniers trimestres. Et puis encore et toujours le secteur technologique, avec ce matin encore beaucoup de volatilité en Asie autour des valeurs liées aux semi-conducteurs. On en reparlera dans un instant. Vous avez Meta qui va probablement se lancer dans la course du cloud. En tout cas, hier, Bloomberg a fait décoller le titre Meta de près de 8% en évoquant cette information, sachant que c'était déjà dans les tuyaux. Hein. Mark Zuckerberg avait dit à l'Assemblée Générale du groupe au mois de mai qu'il réfléchissait à vendre les capacités de calcul dont dispose le groupe.
Et oui, on se dirige vers Good Morning Market, le club de la bourse dans un instant. Il y aura Bertil Bayard, rédactrice en chef au Figaro, et Charles de Boissezon, responsable mondial de la stratégie action de Société Générale CIB. On y revient dans un instant. À tout de suite.
Good Morning Market, le club de la bourse.
Le club de la bourse, ce matin avec Bertil Bayard, rédactrice en chef au Figaro. Bonjour Bertil.
Bonjour.
Et Charles de Boissezon, responsable mondial de la stratégie action de Société Générale CIB. Merci à tous les deux d'être dans ce club de la bourse avec Étienne Brack, évidemment. Bon, on va inverser les thèmes qu'on avait prévus parce que c'est cette nouvelle qui a beaucoup choqué Étienne dans le secteur. Ben oui, évidemment, KNDS qui devait être la plus grosse introduction à Paris dans le secteur de la défense européenne, qui reporte cette introduction en bourse. Charles de Boissezon, une première réaction sur cette décision. C'est les conditions de marché qui sont défavorables, disent-ils.
Conditions de marché, peut-être aussi la performance générale du secteur de la défense, qui était un petit peu molle ces derniers temps, mais il faut replacer dans un contexte plus large. Le premier, c'est que les performances avaient été extrêmement fortes les deux années précédentes. Et l'autre, c'est que je crois qu'il y a, de manière générale, c'est pareil pour la technologie US, un élargissement des performances, une diversification. Et nous, chez Société Générale, nous pensons notamment que le thème de la souveraineté doit s'entendre de façon plus large. Donc, c'est peut-être un bon moment de diversifier en dehors de la défense. Ceci étant dit, si tu veux la paix, prépare la guerre. Les gens ont eu tendance à se dire que des annonces de paix font que ça devrait se calmer. Je pense l'inverse. Je pense qu'au contraire,
On multiplie les conflits.
Il y a un désengagement américain. Mais quand on se dit à Hormuz, c'est en train de se régler. L'Ukraine, à un moment, ça se réglera. Israël, à un moment, ça se réglera. Donc, on dépense moins. C'est probablement, de notre point de vue, une erreur.
Bertie.
C'était vraiment l'introduction en bourse à pas rater, quoi. Elle était tellement symbolique, donc effectivement, il y avait une question de timing, mais cette question de timing, elle aurait pu être, je pense, un petit peu mieux anticipée. Enfin, je veux dire, c'est... il faudrait faire un petit peu l'autopsie de cet échec, mais c'est un échec d'abord pour le franco-allemand, et on en a besoin, et c'est un échec de plus, et ça commence vraiment à faire beaucoup et à bien indiquer qu'il y a un problème assez profond dans cette relation franco-allemande. Donc, c'est une sorte d'illustration par le marché de cette difficulté de la relation entre les deux pays. C'est évidemment un échec européen. C'est peut-être l'échec d'un nouvel Airbus. C'est-à-dire que ces Airbus dont les politiques veulent absolument en créer partout, etc., j'ai l'impression que le marché, il y croit beaucoup moins que les politiques. Mmh. C'est-à-dire la perspective d'aller investir dans une entreprise dont deux États, en l'occurrence la France et l'Allemagne, sont actionnaires à parité, avec des golden shares, avec des obligations réciproques dans tous les sens susceptibles, on va dire, d'handicaper la marche en avant de l'entreprise. Manifestement, les investisseurs sont un peu moins enthousiastes que les politiques sur ce genre de montage. Et puis, c'est un échec pour l'Europe des marchés de capitaux, quoi. C'est-à-dire qu'on avait enfin une introduction en bourse assez importante.
Grosse valorisation.
Grosse valorisation sur deux places européennes, etc. Et ça rate, quoi. Évidemment, le contraste avec ce qui est, comme on sort du buzz de l'introduction en bourse de SpaceX. Voilà, c'est quand même assez déroutant. Et puis, peut-être un dernier point pour sa vue. Enfin, pour l'anecdote, c'est que c'est encore une occasion pour l'État actionnaire français de vendre une participation et toujours pas. Toujours pas.
Étienne ?
La France devait avoir 40%, l'Allemagne 40%, il fallait mettre 20% en bourse. Donc même 20%, visiblement, c'était difficile à mettre en œuvre. Alors c'était uniquement réservé aux investisseurs professionnels. Hein. Le retail, les particuliers ne pouvaient pas participer à cette introduction en bourse. Il devait y avoir une double cotation à Paris, mais aussi à Francfort. Hein. Pour rappel, KNDS fabrique notamment des chars. Alors, c'est vrai que le secteur de la défense, comme a souligné Charles, a beaucoup boosté hein, en 2022 avec le conflit en Ukraine. Et puis là, depuis un an, ça vivote un petit peu, surtout qu'il y a eu beaucoup de mauvaises nouvelles. Hein. On en parlait ce matin dans la matinale. Rheinmetall, contrat de 12 milliards sur les frégates, rayé du jour au lendemain par l'Allemagne qui estime c'est trop long, c'est trop cher. Finalement, on va changer de projet, on va pas faire appel à Rheinmetall. Moins 18% quand même en l'espace d'une séance. Hein. C'est pas petit, hein, Rheinmetall. Vous avez également le ministre de la Défense britannique. Alors certes, il y a les problèmes à Londres que l'on connaît, mais quand même, hein, il a claqué la porte il y a un mois en disant on me donne pas les moyens de défendre le pays, j'ai pas assez d'argent pour répondre aux demandes de l'OTAN. Et donc, tout cela, ça pose également des questions. C'est vrai qu'on a moins de croissance, des déficits qui sont de plus en plus élevés. Et à la fin, la question, c'est de se dire, est-ce que la promesse du politique de dire on va dépenser plus dans la défense va vraiment se réaliser et va se voir dans les carnets de commandes? Aujourd'hui, la bourse, elle en doute. Et quand vous regardez le secteur de la défense depuis le début de l'année, il ne fait pas grand-chose au sens large.
Et Eric Trappier disait ce matin, lui, il parlait plus de, d'autres partenariats. Le SCAF, notamment, qui a échoué, il a l'air de pas du tout avoir compris pourquoi on avait fait toutes ces promesses politiques, Bertille.
En tout cas, il y a eu beaucoup de promesses politiques sur une très longue période. Et donc aujourd'hui, il faut trouver la bonne méthode pour avancer sur, à la fois sur l'effort de réarmement et donc de mise en route des industriels dans cet effort. Et puis sur les bonnes architectures, en se disant que... Voilà, il y a aussi des choses qui marchent. Hein, quand on va regarder, quand la Suède commande des frégates à la France, voilà, on voit qu'il y a des grandes entreprises comme ça de spécialité sur lesquelles on a des commandes européennes qui se déclenchent. Et là, c'est beaucoup plus positif. Et ça va beaucoup plus vite probablement que ces reconfigurations qui sont très compliquées.
Autre thème ce matin dans le club de la bourse, c'est le premier pas de Kevin Warsh, le nouveau patron de la réserve fédérale américaine. Alors, on les surveille hein, vraiment dans le détail, ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas, Étienne Braque, parce que là, il s'est exprimé hier. Il a dit à la fois que l'inflation était trop haute, il a dit aussi qu'il ne ferait pas exactement ce qu'on voulait de lui.
Oui, il y avait beaucoup d'interrogations ces dernières semaines, hein, parce qu'il a été nommé par Donald Trump sur est-ce qu'il va être à la botte de Donald Trump ou pas. Donald Trump qui, souvenez-vous, surnommé Jerome Powell, Jerome Too Late, hein, parce qu'il ne baissait pas les taux comme le souhaitait la Maison-Blanche. Donc là, il est un petit peu dans un exercice de communication. Hein, c'était la première fois qu'il parlait publiquement, en dehors bien sûr de la dernière réunion de la Fed à l'occasion du symposium de Sintra. Et donc, forcément, hein, il a dit que l'inflation était trop élevée. Elle est sur des niveaux de 2023. Alors certes, elle a tendance un petit peu à refluer ces dernières semaines avec la baisse des cours du pétrole. Mais là, pour l'instant, il essaye de montrer qu'il est indépendant et qu'il tient la barque.
Est-ce qu'il va tenir longtemps, Charles de Boissezon, d'après vous?
La prudence est toujours de mise hein, quant à nos capacités à anticiper les politiques des banques centrales. Simplement, pour nous, quand je regarde la réaction de marché action, je dirais qu'elle est pour l'instant d'ordre 2. L'ordre principal, ce sont les profits des entreprises. La Fed a plus un impact sur les multiples, le PE que l'on applique à ces profits-là. Et pour l'instant, il y avait une petite crainte sur la partie longue de la courbe qui commençait à rendre les actifs equity, actions, un petit peu chers. Ce sera peut-être un souci un peu plus tard lorsque tous ces hyperscalers vont devoir aller taper le marché de la dette pour pouvoir financer leurs dépenses d'investissement massives, puisqu'on entre dans un déficit de free cash flow. C'est plutôt ça le point d'attention sur le marché qui me concerne plus particulièrement. Quant à la Fed, qu'il joue sa propre partition, je pense que c'était attendu, c'est bien. Je pense qu'il la joue quand même assez bien. C'est un peu comme Mozart. Hein. Dans Mozart, même le silence, c'est du Mozart. C'est un peu pareil pour la Fed, il faut aussi écouter les silences. Et un peu de silence aux États-Unis, parfois, ça ne fait pas de mal.
Oui, Kevin Warsh a choisi effectivement de moins expliquer ce qu'il allait faire. Est-ce que pour autant, ça va le protéger des humeurs de Donald Trump, Bertille?
Ça, on verra effectivement comment les choses évoluent et ça dépendra beaucoup de la persistance de la tension sur les prix ou pas. Et c'est vrai que ce qui s'est passé sur le prix du pétrole, de ce point de vue-là, est assez fondamental. Et objectivement, a surpris tout le monde. Personne n'envisageait que le retour au prix du pétrole d'avant-guerre soit aussi rapide. Donc, c'est vrai que là, il y a quand même des évolutions sur lesquelles il y a énormément d'incertitudes qui pèsent. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans son discours, c'est qu'il a réinsisté sur ce qui fait partie un peu de sa marque de fabrique historique, qui est ses propos sur le bilan de la Fed. C'est-à-dire que voilà, il s'est un petit peu dégagé la question des taux et de l'évolution des taux, puisqu'il ne veut pas donner de guidance. En revanche, il a pas mal insisté sur la question du rôle de la Fed de façon générale, du fait que les banques centrales avaient pris une importance et un rôle trop important au-delà de la simple gestion, enfin simple gestion des crises financières, et que donc il y avait quelque chose à faire sur le bilan. Ça fait partie de ces groupes de travail de réfléchir à ce bilan de la Fed, dont on a vu qu'il avait évolué de façon absolument énorme depuis de crise en crise. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il insiste beaucoup. Donc, il est sur une philosophie de retrait un petit peu de la Fed, du marché, au sens où, voilà, on verra ce qui se passera sur les différentes évolutions, et notamment sur l'intelligence artificielle, etc. Mais en tout cas, la Fed dit... C'est une façon de dire, la Fed ne va pas venir éponger toutes les bêtises que vous allez éventuellement commettre dans les prochains mois.
Meta, on en parlait tout à l'heure, Étienne a pris plus de 8% en bourse et pourrait se lancer dans la course au cloud.
C'était une piste qui était évoquée lors de l'Assemblée Générale de Meta, c'était fin mai par Mark Zuckerberg, avec une question, c'est de se dire, un petit peu comme chez Amazon, on a des data centers, on les fait tourner pour nous, est-ce que demain, on ne pourrait pas également les mettre à la disposition de certains clients? Parce qu'aujourd'hui, il y a une course autour des data centers, on en parle tous les jours sur ce plateau, entre le moment où vous pensez avoir des capacités de calcul et où vous les avez vraiment opérationnellement, il se passe de longs mois, voire parfois plusieurs trimestres. Ça rassurait le marché, plus 8%, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'interrogations, notamment sur Meta, c'est l'une des plus fortes baisses parmi les GAFAM depuis le début de l'année. Mmh. Le titre est quand même en baisse de plus de 15%, quand Wall Street, grosso modo, les indices gagnent entre 8 et 12%, parce que tout ça, ça coûte de l'argent. Et donc, à court terme, le marché se dit ça serait un moyen de faire rentrer de l'argent et financer notamment les énormes CAPEX, puisque pour rappel, vous avez un groupe qui prévoit d'investir 130 milliards cette année.
Charles et Bertil, la concurrence entre les acteurs américains se renforce avec un risque de guerre des prix. Qui veut réagir ? Charles ?
C'est clair qu'il y a une guerre des prix. C'est clair qu'il y a probablement, pour l'instant, une bulle des marges plus qu'une bulle des valorisations, avec un transfert massif. Globalement, on est en train de parler de 200 milliards de capex qui partent des poches de l'un pour aller vers les poches de l'autre. Personnellement, je préfère qu'on dépense dans du capex que dans du rachat d'actions, puisqu'on a eu de la croissance des bénéfices par action qui était plutôt de l'ingénierie financière. Honnêtement, j'ai pas de quoi dépenser, donc je rachète mes titres. Le marché aime bien, mais enfin, on pense bien qu'industriellement, c'est pas forcément terrible. Là, on voit des augmentations de prix. Chez Apple, on commence à avoir des répercussions assez massives sur votre iPhone, votre iPad & Co. Si ça existe encore, les iPads, d'ailleurs, je ne sais plus.
Oui, oui.
ou les iMac. Il y a clairement une guerre des prix, mais on voit qu'il y a une demande pour l'instant qui est massive et l'offre n'y survient pas. Et quand on regarde les États-Unis, on voit des hausses massives ou sur certains titres en Europe, mais en Corée, on le voit de façon encore plus flagrante. Avec un petit bémol néanmoins, c'est qu'on a des flux retail qui achètent des produits très leveragés sur certains de ces titres en Corée. Et moi, j'aurais plutôt tendance à avoir une certaine méfiance sur certaines expositions au Kospi, parce qu'il y a tellement d'argent du retail qui rentre là-dedans en achetant des ETF sur une boîte leveragée. Alors, on est quand même loin du fonds diversifié. Ça, pour moi, ça crée plus une bulle d'engouement du retail. C'est plutôt ça mon point de souci. Sur le reste, c'est clair qu'il y a une guerre des prix, mais pour l'instant, les barrières à l'entrée sont quand même massives. Sinon, on aurait plus d'acteurs en Europe pour jouer cette thématique-là. Alors, honnêtement, on en a quoi ? 2,5-3 ? C'est ça le sujet. C'est tant qu'on n'a pas assez d'offres, honnêtement, vous fixez les prix.
Merci.
On a bien vu dans les propos, notamment hier à Cintra, chez les banquiers centraux et autres gendarmes financiers, combien il y avait une part d'inquiétude quand même face à ces phénomènes, et notamment du fait qu'on a de la dette des deux côtés aujourd'hui. Donc on a de la dette chez les hyperscalers maintenant qui pour financer leurs investissements et les gigantesques capex dont on parlait, et puis on a de la dette chez les investisseurs à la fois chez les particuliers et chez les institutionnels, avec des beaucoup de leviers qui arrivent de ce côté-là aussi. Et donc ça fait quand même énormément d'argent qui est aujourd'hui suspendu aux perspectives de revenus, qui reste incertaine malgré tout, et effectivement qu'une guerre des prix pourrait mettre en danger à l'avenir.
Étienne, pour finir, hein, des inquiétudes qui se voient sur les cours de bourse. Wall Street délaisse en partie les GAFAM.
Regardez Microsoft, Meta, hein, ces deux valeurs cèdent plus de 10% depuis le début de l'année, parce que ce sont typiquement des valeurs sur lesquelles il y a des inquiétudes. Hein. Ce sont des groupes qui dépensent beaucoup d'argent, et puis à court terme, des interrogations, notamment ce qui concerne Microsoft, hein, qui a une part importante dans OpenAI, dans ChatGPT. On voit ces derniers mois qu'il y a vraiment une course de petits chevaux, hein, entre OpenAI et puis Claude. Et la bourse, comme l'a souligné Charles, en fait, aujourd'hui, elle achète l'argent, elle achète les acteurs où cet argent se déverse, c'est-à-dire l'argent qui se déverse dans les semi-conducteurs. Le Kospi fait x2 depuis le début de l'année. Vous êtes responsable de la stratégie action. Charles, c'est quoi aujourd'hui dans ce segment technologique les segments que vous préférez, même en termes géographiques, hein, parce que l'Europe n'est pas en reste, hein, quand on voit le secteur des semi-conducteurs.
Alors, l'Europe n'est pas en reste, elle se paye quand même assez cher dans ce secteur-là. Donc, de manière générale, notre approche est plutôt de dire on achète, je pense que c'est assez, je pense pas que ce soit très anti-consensus, mais la chaîne de valeur. En gros, je vends des pelles et des piolets, hein, c'est-à-dire plutôt sur la partie infrastructure, parce qu'à la fin, il faut quand même bien avoir physiquement. Le vrai sujet, en fait, c'est qu'il y a une pression sur les actifs physiques que nous n'avions pas connus avant. Et donc, il s'agit d'être exposé plutôt à ça. La question, comme l'évoquait Sandra ou Bertie, c'est à un moment, il va falloir voir s'il y a un bénéfice réel de toute cette IA dans la bottom line des entreprises. Pour nous, c'est probablement un sujet 2027, voire 2028. Pour le moment, on se concentre sur les premiers bénéficiaires, là où l'argent va être dépensé, dans des circuits, dans de l'électrification. Petit sujet éventuellement, c'est que c'est assez consensuel, toute cette thématique d'infrastructure, tout le monde est très long là-dessus. Personnellement, j'ai tendance à quand même être long des États-Unis, encore. Les valorisations sont finalement pas si élevées que ça, contrairement à la rareté de certaines valeurs qui poussent quelques titres en Corée, deux titres, en Europe, allez, deux titres aussi.
On continuera à en discuter dans la demi-heure qui vient. Good Morning Market avec vous, Étienne Brack. Merci Bertie Bayard, rédactrice en chef au Figaro, et Charles de Boissezon, responsable mondial de la stratégie action de la Société Générale CIB. On se retrouve demain matin. Demain matin, la matinale de l'économie sera en partie délocalisée depuis Aix-en-Provence, où on sera pour les deux prochains jours. Passez une très bonne journée sur BFM Business.
BFM Business présente Good Morning Market. Étienne Brack.
8h58. Dans un instant, c'est l'ouverture des marchés européens. Le CAC 40 est quasi étal. En pré-ouverture, les marchés attendent bien sûr l'emploi américain qui sera publié un jeudi, exceptionnellement, tout à l'heure à 14h30, dans le sens où demain, il n'y aura pas de cotation aux États-Unis. Ça sera un jour chômé à la bourse, à Wall Street, puisque les Américains vont fêter les 250 ans de l'indépendance des États-Unis avant la grande fête nationale qui va bien sûr se tenir ce samedi. Dans un instant, avec Guillaume Loewe, nous reviendrons sur Meta, qui a pris 8% hier soir à la clôture. Bloomberg a fait décoller le titre avec un article évoquant que Meta réfléchit très sérieusement à se lancer dans le cloud, comme AWS avec Amazon, comme également Alphabet avec ses services de cloud. Cela a plu au marché. Est-ce l'heure de revenir sur ce titre Meta, qui mine de rien avec la séance d'hier a limité ses pertes? Le titre ne perd plus que 6% depuis le 1er janvier. Nous évoquerons bien sûr le dossier Microsoft, où là c'est beaucoup plus compliqué. On est sur des plus bas de 2023, le titre cède 18% depuis le 1er janvier. Est-ce enfin une opportunité? Réponse à 9h05. Ensuite, c'est Alexandre Baradez, chef analyste d'IG, qui nous rejoindra pour parler de ce nouveau semestre, nouveau trimestre également, qui s'ouvre sur les marchés après un trimestre historique pour le Nasdaq, il faut le dire. C'était sa meilleure performance depuis 2020, avec quand même un gain de près de 20% en l'espace de 3 mois. Et surtout, une volatilité énorme à nouveau sur le segment des semi-conducteurs. C'est courant du côté de la bourse de Séoul avec Samsung et SK Hynix. Ça l'est de plus en plus également du côté des États-Unis. Typiquement, hier, Micron a perdu 10% du côté de la bourse de Wall Street. Et puis, en dernière partie d'émission, c'est Jean-Louis Cussac qui nous accompagnera pour dresser d'un point de vue technique la tendance, que ce soit sur les indices américains, mais également sur les indices européens. Voilà le programme de la prochaine demi-heure. En attendant, il est quasiment 9h et c'est Nathan Cocampo qui vient de nous rejoindre pour nous livrer toute l'information économique du jour.
Good Morning Market, le journal.
Les prix sont trop élevés pour le nouveau patron de la réserve fédérale américaine. L'inflation a grimpé à 4,1% sur un an en mai, sous l'effet de l'envolée des prix de l'énergie à la suite de la guerre en Iran. Kevin Warsh s'en est inquiété hier pour sa première sortie publique depuis qu'il est le président de la Fed, sans pour autant donner d'indication pour la suite. On l'écoute.
Les anticipations d'inflation au cours de ces quatre dernières semaines ont reculé. Le risque d'inflation a diminué. Encore une fois, dans notre métier, nous ne voulons pas tirer de conclusions hâtives. Mais si certains ménages, entreprises ou acteurs des marchés financiers pensaient que cette banque centrale serait à l'aise avec un objectif d'inflation supérieur à 2%, alors j'imagine qu'ils seront déçus.
En France, Marie-Lise Léon tape du poing sur la table concernant la gestion du réchauffement climatique. Dans un entretien au Monde, la secrétaire générale de la CFDT appelle le gouvernement à se montrer beaucoup plus volontariste. Elle juge que les entreprises sont insuffisamment mobilisées sur cette question et souhaite mettre en place un bouclier social climatique. Elle met en avant l'exemple espagnol. Le gouvernement a notamment instauré des sanctions pouvant aller jusqu'à 30 000 euros quand les salariés sont exposés à des risques. En pleine canicule, une annonce est justement très mal passée. Pour faire des économies, le gouvernement a décidé cette semaine un nouveau recentrage du dispositif MaPrimeRénov. 6 catégories de monogestes dont les fenêtres ne sont plus subventionnées. Ce matin, sur BFM Business, le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, a défendu cette décision.
Quand on refait tout d'un coup, au fond, d'abord les travaux coûtent moins cher, quand vous mettez tout en chantier d'un coup, au global. Et deuxièmement, vous avez un résultat qui fait que pendant 30 ans, 40 ans, vous n'y revenez plus. Là où le monogeste, c'est plus compliqué. Et surtout, bah, vous cassez une première fois, vous refaites les peintures, puis il faudra revenir casser une deuxième fois, vous refaites les peintures. Et surtout, le risque, et on l'a vu, hein, c'est qu'on ne fasse pas les travaux dans le bon ordre. Il y a une espèce d'escroquerie à dire, bah, on va vous aider à changer votre système de chauffage. Ah, je vais faire des économies. Ah, bah non, parce que vous n'avez pas isolé les murs. Donc, il vaut mieux être complet. Et c'est ça qu'on fait avec MaPrimeRénov, de la rénovation globale.
Et puis, une page se tourne. Fini les disques pour Sony. Ces nouveaux jeux PlayStation seront tous dématérialisés à partir de janvier 2028. Les joueurs devront les télécharger sur le store en ligne ou obtenir un code de téléchargement auprès de revendeurs. Le géant japonais se justifie par un changement de tendance dans les préférences des consommateurs. Le mastodonte GTA 6 qui sortira en fin d'année ouvre le bal et sera 100% dématérialisé.
Merci beaucoup Nathan Cocampo. Le CAC 40 est en très légère hausse de 0,15%. Tous les détails sur la séance en cours dans un instant. Juste avant, un petit mot du programme des experts que vous retrouvez à 9h30 avec Frédéric Simotel. Quel sera le programme tout à l'heure, Fred ?
Alors au programme, on aura nos trois invités, trois experts, Léonidas Kalogeropoulos, Gaël Sliman, Thomas Grejvin. Si je parle de Gaël Sliman, c'est parce qu'il y aura un baromètre Odoxa justement sur les tendances du mois de juin, le moral économique des Français qui est pas terrible hein, pour le mois de juin. Un riche n'est pas si riche aussi, on leur a posé la question avec Odoxa. On parlera aussi sur un sujet sur la souveraineté numérique. Vous savez qu'aujourd'hui, pour ouvrir les marchés public et privé aux solutions numériques souveraines, ce sera l'un de nos sujets. Tiens, un sujet important qui, vous savez, Thomas Grejvin, qui sera l'un de nos experts économistes à Sciences Po, les atermoiements allemands face à la Chine, on reviendra sur ce sujet. Et puis, si on a le temps, en toute fin d'émission, on parlera de l'automobile, et on commentera la grande bascule de l'aide électrique et comment ça redistribue les cartes sur le marché français. Voilà, retrouvez-nous 9h30, 10h30 sur BFM Business.
En attendant, il est 9h03 et le CAC 40 est donc en très légère hausse. Allez, Casist à plus 0,1% à 8345 points. Carrefour, ArcelorMittal et Sanofi sont maintenant seuls les trois plus fortes hausses. À l'inverse, Schneider Electric, qui était déjà en difficulté hier, cède à nouveau un peu plus de 2%. Ce titre Schneider qui repasse sous les 270 euros ce matin à l'ouverture. Le pétrole est toujours sur ses plus bas de début mars à 70$ pour le Brent, 67$ même désormais pour le WTI. Le marché obligataire se stabilise, notamment en ce qui concerne les taux longs. Le 10 ans français est à 3,59, le Bund est à 2,89 et puis sur le front des devises, vous avez l'euro-dollar qui est toujours autour des 1,14. Nous sommes à la porte de ce seuil à 1,1393. Les valeurs à suivre ce matin, Sodexo, c'est de loin la plus forte hausse du SBF 120. Le titre s'envole de plus de 6% à 52,85 et pour cause, vous avez Sodexo qui a revu ce matin à la hausse ses perspectives pour cette année. Après de nombreux trimestres difficiles, vous avez un groupe qui revoit à la hausse ses prévisions alors que dernièrement il avait plutôt tendance à être prudent voire même de les revoir à la baisse. Le marché accueille favorablement cette nouvelle. Abivax, qui souvenez-vous a annoncé des bonnes nouvelles en début de semaine autour de ses résultats de phase 3, continue son envolée plus 4,6% au-delà des 122 euros. Et puis à l'inverse, les valeurs liées aux semi-conducteurs ferment la marche. Soitec perd un peu plus de 5%, titre qui a connu un parcours spectaculaire hein, bien sûr depuis le début de l'année, 110,55€, suivi de Nexans qui perd un peu plus de 3%. 1%. Les valeurs liées aux semi-conducteurs qui ferment la marche ce matin en Europe, comme c'était le cas également en Asie avec le Kospi qui a à nouveau perdu près de 7%. Énorme volatilité aux valeurs, liées aux valeurs autour des semi-conducteurs. Nous en parlons dans un instant avec Guillaume Loewe de OptiGestion qui va nous rejoindre. Est-ce qu'il faut encore accompagner le mouvement spectaculaire autour des valeurs liées aux semi-conducteurs? Et puis surtout, est-ce qu'il est temps un petit peu de prendre des positions autour de Microsoft ou encore autour de Meta? Élément de réponse dans un instant. À tout de suite.
BFM Business présente Good Morning Market. Étienne Braque.
9h07, c'est parti pour la deuxième partie de Good Morning Market. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30. Le CAC 40 est donc en hausse de 0,3% et surperforme l'Eurostock 50 qui cède 0,17%. Tous les détails sur la séance en cours avec Jean-Louis Cussac à 9h25. En attendant, on va donc parler du segment technologique et plus particulièrement des GAFAM avec Guillaume Loewe qui vient de nous rejoindre ce matin. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes analyste chez OptiGestion. On va parler notamment de Meta qui a pris plus de 8% hier soir à la clôture, mais également de Microsoft. Et puis bien sûr, une question qui se pose, vous imaginez que tous vos clients vous interrogent par rapport à ça et nous on reçoit beaucoup de questions ici sur l'indice SOX, l'indice de semi-conducteurs américain qui a plus que doublé en l'espace de quelques semaines et qui désormais affiche quelques signaux de fébrilité. Bon, Meta qui pourrait donc se lancer dans le cloud. En tout cas, hier, Bloomberg a écrit un article en disant bah, c'est une piste aujourd'hui qui est évoquée. Le marché se dit, c'est une bonne nouvelle, ça pourrait être une source de revenus supplémentaires et moins dépendre de la pub.
C'est ça, disons que le marché a salué une bonne nouvelle pour un peu amortir les 130 milliards de capex cette année de Meta. Pour le coup, il n'y a rien de nouveau à l'horizon, puisque AWS, et, enfin, Amazon et Microsoft le font déjà. Pour Meta, ce n'est absolument pas le cœur de métier. Et de toute façon, le problème de l'infrastructure IA ne réside pas vraiment dans la capacité à vendre sur les heures creuses un peu de clusters ou de puissance de calcul qui seraient disponibles. Le vrai problème se situe... En fait, la vraie question, c'était aussi de savoir un petit peu, le marché s'interrogeait sur est-ce que Meta a trop de puissance de calcul ou pas. Ce n'est pas le cas parce qu'on mesure l'efficience d'un réseau sur les pics d'utilisation et non quand les, disons, aux heures creuses. Donc, le marché salue Meta, mais ça n'a pas changé grand-chose dans les faits. Ce qui va compter, justement, c'est la pub, c'est les chatbox sur WhatsApp, c'est tout ça pour Meta.
Marché publicitaire qui est difficile pour les médias traditionnels, mais par contre, chez Meta, tout va bien. Hein, on a quand même aujourd'hui des GAFAM qui continuent d'engranger des revenus conséquents sur ce marché publicitaire. Pourquoi le titre a été délaissé là, ces derniers mois? Parce que c'est vrai que Meta n'est plus du tout sur ses plus hauts historiques.
On fera, c'est à peu près le même constat pour Microsoft, on fera la transition juste après, mais c'est vrai que d'un point de vue de valorisation, les free cash flow, donc c'est pour l'actionnaire, avec ses investissements massifs dans l'IA, ont diminué. Donc forcément, quand la rentabilité est moindre, normalement, les titres sont censés corriger. Bon, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer après, parce qu'on est dans une phase d'investissement, est-ce que les rendements vont être là derrière? Est-ce qu'on va réussir à monétiser? Nous, on pense que chez OptiGestion, on pense que oui.
Ce titre qui est à 20% de ses plus hauts historiques, hein, touché l'été dernier et qui a retrouvé donc les $600 hier soir à la clôture grâce à une hausse de près de 8% à $612.90. Microsoft, de son côté, est également loin de ses plus hauts historiques. Alors là, il faut même revenir à 2023. Là aussi, hein, vous avez un groupe qui dépense beaucoup d'argent, ça inquiète le marché. Et puis surtout, au départ, c'était une bonne nouvelle, la participation dans OpenAI, hein, la maison mère de ChatGPT. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins, avec Claude qui continue de percer.
Exactement. Alors, tout petit peu d'histoire sur Microsoft, parce que si on regarde vraiment Microsoft depuis les années 2000, on va dire depuis la bulle Internet, c'est quand même la seule société au monde qui a réussi à rester dans le top 10 des capitalisations mondiales, ce qui n'est quand même pas rien. Et elle a réussi à le faire grâce à trois choses, en fait. Elle a réussi à innover le business model. Donc, il y avait au début les systèmes d'exploitation avec Windows. Il y a eu le passage dans Office 365 et aujourd'hui le cloud et maintenant l'IA. Donc ça, c'est, disons, en termes de technologie. Mais elle a aussi réussi à s'en réinventer sur le business model. Savoir, on passait d'un logiciel à un logiciel SaaS. Et ça a complètement changé un peu la vision des investisseurs, puisqu'on a eu de la récurrence dans le business model. Douter aujourd'hui de la capacité de Microsoft à monétiser l'IA et à rester un leader technologique, bon, je trouve que c'est rare d'avoir des prix d'entrée comme ça sur Microsoft. Je pense que c'est le bon moment de commencer des lignes si vous n'en avez pas. de les renforcer si vous n'êtes pas surexposé. Voilà, c'est un très bon point d'entrée sur Microsoft.
384 dollars hier pour Microsoft, hein, qui perd 25-30% depuis ses plus hauts historiques. À la fin du mois de juillet, on aura la période des résultats trimestriels. Bien sûr, ces acteurs seront scrutés sur leur capacité d'investissement et un petit peu sur où ils en sont aujourd'hui dans cette course à l'IA. Faut pas exclure des bonnes nouvelles, hein. C'est vrai qu'il suffirait de petits signaux pour que d'un seul coup, ces valeurs rebondissent et retrouvent leur plus haut.
Un peu de détail dans les résultats du cloud, par exemple, chez Azure. Si on nous décompose bien le chiffre d'affaires, nous expliquons exactement où l'IA, où l'IA va percer de la visibilité, combien génère exactement un data center, ça serait effectivement une très très bonne nouvelle. Voilà. On verra bien, effectivement, fin juillet. C'est vrai que ça commence à devenir un petit peu long pour l'investisseur. On reconnaît que trimestre après trimestre, on s'attend justement à cette bonne nouvelle qui n'arrive pas vraiment, mais bon.
À suivre. Ça sera aux alentours du 25 juillet, les résultats des GAFAM. En attendant, donc, le marché continue de se focaliser sur les valeurs liées aux semi-conducteurs. On est dans un marché qui est très momentum. On en reparlera d'ailleurs dans un instant avec Alexandre Baradez. Et aujourd'hui, le marché achète quoi? Eh bien, les sociétés qui sont les clients des GAFAM, c'est-à-dire aujourd'hui typiquement les valeurs liées aux semi-conducteurs, à l'électrification, aux data centers. Quand vous regardez aujourd'hui des Micron là, qui perdent 10%, qui le lendemain reprennent 150 milliards de capitalisation, enfin on est dans des chiffres qui sont énormes.
Bah, en même temps, vous avez des clients qui sont énormes.
Oui.
C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que quand Microsoft va bien, bah, on pense que ses clients vont recevoir une manne financière énorme, et à l'inverse, quand on se dit que Microsoft, que le marché est inquiet pour Microsoft, c'est l'inverse qui se passe. Je pense que sur le SOX, c'est là où il faut faire un tout petit peu attention, c'est sur les valorisations. C'est-à-dire que la performance du SOX s'explique par deux facteurs. Une croissance du chiffre d'affaires exceptionnel dans les sociétés, mais il y a aussi eu un rattrapage sur la valorisation des sociétés. On le voit bien, SKINX, Micron, la mémoire, c'est des secteurs qui sont très très cycliques. Et donc on peut avoir, en ce moment, une forte demande, mais peut-être que dans un an et demi, deux ans, on peut voir une compression des marges parce que finalement la demande n'est plus là. Donc, faut faire. C'est pas la même chose qu'un Nvidia où là on est sur un leader dans une situation de monopole où la demande est là et continue. En fait, c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Donc, il faut faire attention. C'est pas dans le SOX, on n'a pas tout à fait les mêmes sociétés. Il y en a qui c'est des vraies sociétés de croissance, d'autres qui sont beaucoup plus cycliques, ce qui explique un peu la volatilité dans le SOX.
Et dernièrement, ce sont surtout les valeurs liées aux mémoires RAM, hein, dont notamment les Micron, les SanDisk et compagnie, qui ont tiré la performance. Parce que typiquement, quand on regarde Nvidia depuis le début de l'année, on n'est pas du tout sur la performance de 90% du SOX. Loin de là, on est aux alentours des 5 à 10%.
Exactement. Et c'est ça. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire attention à ce qu'on regarde dans le SOX. C'est effectivement SKINX qui est placé essentiellement sur la mémoire, a vu son cours, on a doublé, quand Nvidia n'a pas fait grand-chose, mais ce n'est qu'un rattrapage sur les valorisations. Par contre, faut pas se faire piéger avec un SKINX qui vaut, je crois, 7 fois le PER de l'année prochaine. À mon avis, ça n'ira pas beaucoup plus haut parce que c'est des sociétés cycliques et les sociétés cycliques n'ont pas des PE comme des Nvidia à 20, 30 ou 40 fois les résultats. Donc la seule chose qui va continuer à tirer la croissance de SKINX et Micron, c'est est-ce qu'ils vont faire du chiffre d'affaires supplémentaire. Nous, on pense que pour le moment, oui, les carnets de commandes sont là, les GAFAM continuent à investir, mais il n'y aura plus de rattrapage en termes de valorisation sur le PE.
Et on est probablement sur un plafond, c'est-à-dire qu'en fait, cette croissance à trois chiffres, au bout d'un moment, elle va commencer à se calmer, elle va ralentir. Ils feront toujours probablement plus de 10% de croissance, ce qui est honorable, hein, ce qui est assez rare pour des sociétés de cette taille. Mais au bout d'un moment, on va commencer à arriver sur un plateau. Et ce que vous nous dites, c'est que ce moment-là, le marché va peut-être un petit peu le redouter, le vendre.
Non, il ne va pas le redouter. Juste, là où le marché a été surpris, c'était sur le doublement ou le triplement du chiffre d'affaires. Donc effectivement, le PE avait passé de 3 à 7, donc c'est un doublement sur le cours de SKINX plus le chiffre d'affaires. Maintenant, le marché a intégré quand même qu'effectivement, il n'y aurait pas de décroissance à trois chiffres chaque année. Tant que les sociétés tiennent les prévisions de croissance, tout ira bien. Effectivement, le jour où les GAFAM coupent les CAPEX, on en rediscutera à ce moment-là. Mais
vous faites quoi aujourd'hui là, dans les portefeuilles chez OptiGestion par rapport à tous ces sujets là, qu'on vient d'évoquer?
On achète des GAFAM, on rentre des lignes de Microsoft chez les nouveaux clients, Meta de la même manière, Nvidia qu'on trouve un peu délaissé justement, parce qu'on pense qu'il y a des flux qui sont partis vers SKINX, Micron. Voilà.
Et plutôt prudent donc sur les nouvelles stars des semi-conducteurs?
Pas toutes. On a rentré des Nebius, des Bloom Energy. Nebius qui est à mon avis bon point d'entrée, qui a perdu 17% à cause de l'annonce de Meta hier, forcément, puisque eux louent de la puissance de calcul aux GAFAM, donc Meta, Microsoft. On pense que c'est, enfin, C'est là où je vous dis que la réaction était un peu exagérée sur Meta, c'est que à très court terme, oui, Meta va gagner un petit peu d'argent. Mais ce qui compte, c'est l'infrastructure globale au moment des pics de consommation. Et là, pour le moment, on est très loin du compte en termes de data center.
Merci beaucoup, Guillaume Loewe, nous a repartagé ce matin vos convictions. Je rappelle que vous êtes analyste financier chez Opti Gestion. 9h17, on continue à parler d'allocation avec Alexandre Baradez qui vient de nous rejoindre en plateau. Bonjour Alexandre, vous êtes chef analyste d'IG. Bah oui, continuons ces échanges autour de cette forte volatilité autour des valeurs liées aux semi-conducteurs. Il suffit de regarder l'indice SOX qui a encore perdu quasiment 7% hier. Autant on peut perdre des pourcentages comme ça sur des small et mid cap, autant là ce n'est pas du tout le cas. Et quand on regarde encore ce matin la séance à Séoul, il fallait encore s'accrocher puisque la bourse de Séoul a perdu plus de 8%.
Oui, c'est pour là que j'allais commencer. C'est le KOSPI, donc l'indice star de la place sud-coréenne. Depuis le sommet qui était il y a quelques jours, on a lâché à peu près 18%, mais sachant que l'indice avait gagné plusieurs centaines de pourcents en l'espace de quelques trimestres. Donc on voit que ça allège quand même pas mal sur les semi-conducteurs. Et il y a même un petit peu de rotation d'ailleurs. On voit que la partie logicielle est un peu plus achetée depuis quelques jours. Depuis une grosse semaine, on voit des Microsoft qui rebondissent un petit peu. On voit en Europe des SAP également, hein, pour l'Allemagne, qui rebondissent un petit peu. Et effectivement, là, ces derniers jours, c'est la partie plutôt effectivement semi qui est vendue avec le SOX. Il y a aussi des exemples assez frappants. Vous parliez effectivement de la volatilité sur la tech. Prenez le cas de Micron, donc technologie, qui a annoncé ses résultats il y a quelques jours. Bon du titre derrière, parce que très bon résultat, très bonne guidance, etc. Eh bien, vous regardez ce matin en pré-market, donc avant l'ouverture des marchés américains, on est en train de repasser sous les 1 000 $. C'est-à-dire, c'est les niveaux sur lesquels on était avant l'annonce des résultats. Donc tout le jump, tout le bond qu'il y a eu post-résultat a été corrigé alors, en l'espace de quelques jours. Et ça donne aussi dans le Nasdaq 100, si on prend l'indice américain de référence pour la tech, des variations qui sont quand même assez remarquables depuis quelques jours. Par exemple, la semaine dernière était une semaine plutôt baissière. On a lâché à peu près 4% sur le Nasdaq. Puis là, en 48 heures, lundi, mardi, on a repris un peu de 4% à la hausse, c'est 1300 points en ligne droite si on prend les cotations sur la partie future. Et au moment où on se parle, on a à nouveau relâché 50% de ce rallye. Donc c'est vrai qu'il y a une nervosité qui est quand même palpable, avec quand même un peu de rotation au sein de Nasdaq. Mais c'est vrai que le marché, je pense, est en train de se positionner aussi un petit peu, de faire un peu le tri avant la saison de résultats, hein, qui va commencer d'ici quelques jours, qui va s'étaler jusqu'à la fin du mois de juillet. Mais je pense qu'il y a effectivement pas mal d'attentes sur ces annonces, justement. Est-ce que les projections de dépenses d'investissement vont être maintenu par les grands groupes technologiques américains. Et aussi, est-ce que les résultats seront rescrutés? Ils seront au rendez-vous probablement pour certains d'entre eux, mais je pense qu'il y aura beaucoup d'attentes par rapport au niveau de CAPEX, au niveau de dépenses d'investissement prévues chez ces grands groupes. Et donc, la saison de résultats, je pense, génère un peu d'arbitrage là en début de mois.
Et donc, Micron, hein, qui a perdu 10% oui. Hier soir à la clôture. Quand vous regardez sur un mois, le titre, il est stable, comme l'indice SOX, mais en fait, sur un mois, on peut se dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Ouais. Et puis, en fait, ça évolue en dents de scie d'une façon impressionnante.
Oui, alors, c'est pas plus mal après. Vous en parliez avec votre invité précédent, c'est que le SOX a été. On rappelle, c'est l'indice donc des semi-conducteurs dans lequel vous avez des valeurs américaines, mais aussi d'autres valeurs. Vous avez du ASML, par exemple, qui figure là-dedans. C'est un indice qui a plus que doublé en l'espace de quelques mois. Et donc, avoir quelques journées comme ça où il y a un peu plus de mouvement latéral, c'est pas une mauvaise chose. C'est ce qu'on appelle la consolidation. Et j'ai envie même d'enfoncer le clou un peu plus. De dire que si, par exemple, l'indice voulait même corriger, que vous prenez 100% en l'espace de quelques mois, et si vous en relâchez chez 10 ou 20%, il n'y a pas mort d'homme et c'est même plutôt sain d'avoir ce genre de respiration. Donc pour moi, il n'y a rien d'anormal à ce qu'on voit. Je dirais que la nervosité court terme qu'on a sur la tech est à en mettre en parallèle, en comparaison de l'énorme rallye qui a précédé. On parle du KOSPI qui perd 18% pour la Corée du Sud. Il a eu plusieurs centaines de pourcents de gains en l'espace de quelques mois. Donc absolument rien de dramatique. Même s'il perdait 10% de plus, le KOSPI, même 20% de plus, il n'y aurait rien de délirant par rapport à l'ampleur phénoménale du rallye qui a précédé.
Dans le même temps, l'Europe tente un rebond. Hein, typiquement, oui. Au mois de juin, le Nasdaq a perdu un peu plus de 4%. Et ben, à oui. l'inverse, l'Europe a progressé. Ce matin, le CAC 40 prend 0,5%, oui. alors qu'on a des futurs américains qui sont sur une légère baisse. Oui. Hier soir, légère baisse également. Et puis là, typiquement, ce matin, c'est le retour de Sanofi, c'est le retour de LVMH, des Danone, oui. un peu la conso, les valeurs défensives. Si ça se renforce, si ça continue, ça serait une bonne nouvelle pour l'Europe.
Oui, d'ailleurs, c'est le scénario qu'on dessinait il y a déjà quelques semaines à dire qu'on pensait qu'il allait avoir dans les semaines qui arrivent un peu de surperformance de l'Europe par rapport aux États-Unis. Alors attention, surperformance ne veut pas dire que l'Europe va faire plus 20, les États-Unis moins 10. Hein. C'est de dire que et ce qui est le scénario, on pense qu'il y a un peu trop de valorisation sur la partie américaine, un peu trop d'appétit, recours à des effets de levier, beaucoup d'effets de marge aussi hein, sur les prises de position sur les marchés américains, et bien que l'Europe, qui était assez terne, liée à ces questions de guerre en Iran, du prix de l'énergie qui avait beaucoup grimpé, dernier, ben, on disait qu'il n'y a pas de raison, si le pétrole, ce qui est le cas, retombait très largement, et que les taux européens se détendaient aussi un petit peu, qu'il n'y ait pas de raison que l'Europe reste à la traîne, notamment par rapport à des valorisations qui ne sont pas excessives en Europe. Donc je pense qu'on est en train d'assister à ces quelques mouvements-là. C'est quand même très léger, c'est à la marge, hein, c'est l'épaisseur du trait pour l'instant, mais l'Europe fait un petit peu mieux que la partie américaine. Et je pense qu'il y a des bases pour que ça se poursuive un peu. Regardez hier, par exemple, le chiffre d'inflation en zone euro, c'est une, je pense, une première bonne indication pour la BCE que le gros push d'inflation qu'on a eu depuis quelques mois, qui était quasiment 100% imputable ou presque à la situation en Iran, ben, on voit très bien l'inflation sous-jacente hier, donc core CPI en zone euro, l'inflation CPI, sont ressorties en dessous des attentes et un peu en dessous du mois précédent. Et on rappelle encore une fois qu'en zone euro, avant le début de la guerre en Iran, vous aviez une inflation pendant 3 mois qui était soit égale, soit inférieure à 2% sur la partie globale. Donc, tout le rebond d'inflation de 3% a été en très grande partie drivé par les prix de l'énergie. Ces prix de l'énergie sont en train de retomber depuis déjà plusieurs semaines. Je pense qu'on est déjà en train d'assister un peu au top de l'inflation en euro. Et donc, normalement, espérons-le, et on voit que ça bouge un petit peu dans le discours des membres de la BCE. On est un petit peu moins agressif depuis 2 jours, Christine Lagarde, quelques membres. Est-ce qu'on évitera la hausse de taux en septembre? Je l'espère, mais le marché, lui, quand vous regardez les probabilités ce matin, 60% encore de chance, c'est ce que le marché pense, hein, c'est des instruments financiers sur le Europe considère qu'il y a 60% de chance encore d'avoir une offre de chance, mais c'est entre guillemets, 60% de risque, je dirais plutôt, d'avoir une hausse de taux en septembre. J'espère qu'elle n'aura pas lieu pour la raison qu'on vient de citer.
Il nous reste une minute. Un mot quand même de Kevin Warch, hein, qui parlait hier à Sintra, oui, au Portugal, où la BCE organise un grand colloque. Bon, là, par contre, le marché se dit que la Fed va être ferme.
Oui, oui, quand vous regardez, on parle des probabilités. Encore une fois, le marché, quand on regarde les probabilités, c'est on regarde comment se positionnent les marchés, hein, sur des instruments, notamment monétaires, des choses court terme. Et on voit que le côté États-Unis, le marché considère qu'il y a 85% de probabilité d'ici la dernière réunion de l'année, donc d'ici la réunion de décembre, d'avoir au moins une hausse de taux. Donc, Kevin Warch hier n'a pas détendu cette situation. Il rappelle très clairement que l'inflation doit revenir à 2%. Alors après, il modère un peu le discours par rapport à l'emploi, par rapport aux gains de productivité sur l'IA. Voilà, il y a pas mal de choses intéressantes dans ce discours, mais toujours pas, et ça l'a bien compris, il n'y aura plus de forward guidance, il n'y aura plus d'indications données au marché sur les intentions à court terme. Et donc, ça maintient une forme de... Sur les taux, regardez le taux 10 ans américain, qui s'est redressé depuis 24, 48 heures. On est revenu quasiment à 4,50%. Donc, il entretient un flou, et ça, je pense, ça peut aussi pousser un peu les marchés actions qui sont assez richement valorisés, mais à latéraliser un petit peu. C'est ce qu'on voit un peu sur le SP500, sur le Nasdaq. Et je pense que ça peut se poursuivre jusqu'à la prochaine réunion de la Fed fin juillet.
Merci beaucoup, Alexandre Baradez, de nous avoir partagé ce matin votre expertise. Vous êtes chef analyste d'IG. Et en effet, le 10 ans américain qui est à 4,5. Et tout cela pèse un petit peu, hein, sur le moral à Wall Street. Séance, bien sûr, à suivre tout à l'heure. Il n'y aura pas de cotation, hein, demain aux États-Unis. Et l'emploi américain, ça sera à suivre tout à l'heure à 14h30. Dernière séance de la semaine, en effet, aujourd'hui aux États-Unis, puisque demain, les Américains vont fêter les 250 ans de l'indépendance. Pour décrypter la séance avec nous, c'est Jean-Louis Cussac qui nous accompagne à distance, trader pour compte propre chez Perceval Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis. Bon, est-ce que vous partagez ce qui vient d'être dit par Alexandre Baradez, à savoir que l'Europe peut-être, ça y est, enfin continuer à surperformer par rapport à Wall Street? Plus 0,5% ce matin pour le CAC.
Oui, c'est vrai qu'Alexandre a presque tout dit, hein. L'Europe peut en effet surperformer, elle le fait depuis quelques jours déjà, on va dire depuis presque un mois, là c'est clair. Depuis en fait que le pétrole aussi rebaisse, ça profite, ça avait affecté davantage l'Europe. Aujourd'hui, la baisse du pétrole est bien perçue. Mais quand même globalement, on manque vraiment de conviction, on manque vraiment de densité. Et la volatilité de cette liquidité, elle est toujours incroyable. Regardez ce matin, à 8h, on va chercher 8330 sur les futurs. C'est le niveau que j'avais proposé à l'achat, 31,5 pour tout vous dire. Et sur repli, donc. Et donc, derrière, ça booste comme ça, l'ouverture. On ne sait pas trop pourquoi ni comment. Contre-pied, on a pris plus de 50 points. C'est quand même phénoménal de se dire qu'on a gagné en 25 minutes autant. Regagner autant, bon, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est vrai que c'est plutôt des tirs groupés, hein, c'est vraiment de l'arbitrage, beaucoup d'arbitrage, donc c'est groupé, quand je parle des intérêts sur le CAC 40, sur le reste, il n'y a pas grand-chose, on a des mouvements toujours aussi violents, hein. Téléperformance qui avait beaucoup baissé hier, elle a pris 9%, 10%, enfin, il y a vraiment des choses incroyables, Soitec qui repercisse, Nexan et puis OVH qui rebaisse, c'est... toujours des intérêts extrêmement ciblés, extrêmement violents, avec des, donc encore une fois, une, des densités à l'achat et à la vente qui sont relativement faibles et très volatiles, tout simplement. Alors, les jours se suivent et se ressemblent. On a zéro nouvelle en provenance des accords entre les l'Iran et les États-Unis. On nous raconte que déjà, on a réussi à se mettre d'accord sur tel point. Puis après, on nous dit que les discussions ont porté là-dessus, donc il n'y avait pas d'accord du tout. Donc, on a vraiment, on nous raconte des histoires. Mais les investisseurs gardent espoir que on va régler le problème. Donc, pour l'instant, si vous voulez, c'est vraiment ce qu'on a dans le pipeline, c'est se dire que bon, ça finira par s'arranger. Mais ça n'avance pas. Voilà, ça n'avance pas. Donc, les marchés n'avancent pas non plus. Ils ne trouvent pas le relais, globalement, à des hausses qu'on peut observer comme étant plutôt bien, hein. C'est, il n'y a pas de souci. Bon, de toute façon, sur le plan technique, on a des marchés qui ont eu des signaux acheteurs de tendance haussière long terme. Ça n'a pas été infirmé. Donc, l'idée d'acheter sur des replis reste d'actualité. Très souvent, c'est rapide. C'est-à-dire que les replis durent pas longtemps et ça rebondit très vite, très fort. Après, on hésite. Donc, du coup, c'est pas simple en tant que trader. Faut en être conscient. Mais voilà, c'est toujours aussi non infirmé. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher des opportunités. C'est pas toujours facile, mais enfin bon, a priori, en tout cas, la zone d'achat ce matin, elle se situait, oui, entre 850 et entre 8350, 8315, et j'avais choisi 31. On l'a fait très rapidement. Ça rebondit très rapidement. Et on va continuer à acheter sur des retracements dans la journée si jamais ils se présentent pour faire des écarts. Et sinon, sur le fond, on essaie de construire des positions acheteuses. Mais est-ce qu'on a comme indication que le marché va être régulièrement haussier ? Non. Donc, faut privilégier les écarts, puisque il nous a montré ce marché que il bougeait quand même pas mal, que même quand on l'achetait pas forcément au plus bas, on retrouvait les prix, hein, et au-delà. Et donc, on va continuer dans cet esprit dans les jours à venir, prudemment bien sûr, parce que il y a quand même toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais ça reste techniquement haussier sur les valeurs. On a quand même des titres qui sont en divergence. Moi, j'ai acheté un peu de Vallourec, qui a quand même beaucoup baissé. C'est des valeurs à suivre, je pense.
Merci beaucoup, Jean-Louis Cussac, de nous avoir accompagné ce matin, trader pour compte propre chez Perceval Finance Conseil. Et donc, le CAC qui grappille 0,5%, 8316 points. Les futurs américains en très légère baisse. Séance à suivre, bien sûr, tout à l'heure avec Guillaume Sommerer à 15h30 pour l'ouverture de Wall Street. Dernière séance de la semaine, pas de cotation demain aux États-Unis. Dans un instant, vous retrouvez Frédéric Simotel pour les experts, 9h30, 10h30. Très bonne journée.
Good Morning Market sur BFM Business.